Alors en fait, j'avais une question déjà pour savoir si parmi les habitats que du coup tu avais étudiés, il y avait des coopératives d'habitat dans lequel en fait le bien il est ôté de toute possibilité de spéculation. Et j'avais une autre question en fait plus en lien avec le sens que revêt la participation dans la gouvernance des communs. Est-ce qu'il y a un sens qui ressort généralement autour de cette dimension participative? Je pense à une dimension plus, enfin des ambitions démocratiques par exemple, sur la façon de prendre des décisions, sur la façon de gérer en fait les espaces communs. Ou est-ce que finalement dans chaque habitat il y a des modalités d'organisation de la gouvernance qui sont totalement différentes?
Alors, coopérative d'habitants, ça, typiquement, c'est très territorialisé. Chez nous, il n'y en a pas beaucoup. Très, très peu de coopératives d'habitants. C'est pas notre modèle. En fait, nous, on n'a pas de modèle déjà. Enfin, quand je dis nous, c'est dans l'Ouest, là, il y a une diversité de modèles. À Strasbourg, c'est pas une question, les statuts juridiques. Donc, du coup, c'est des copropriétés. Enfin, c'est-à-dire, ça, c'est le statut par défaut, hein, les copropriétés, c'est ce qui est plus câblé pour les notaires, pour les banques, etc. Donc nous, il y a quelques coopératives, il n'y en a aucune dans mon corpus. Il y avait un projet qui était encore à l'état de projet quand j'ai étudié, qui a été longtemps d'ailleurs, qui vient juste de se monter là. Et non, à ma connaissance, coopérative d'habitat, ça, c'est pas que Lyon, mais voilà, c'est très lié à Lyon, très lié à Abicop qui s'est installé à Lyon. Mais en fait, ça vient pas d'Abicop, c'est que Abicop, ils avaient ce modèle-là, ce projet-là de coopératives, et puis c'est Lyon qui les ont qui les ont acceptés en fait, enfin qui ont financé enfin par une tradition de coopérative pas que d'habitat mais à Lyon. Donc ça aussi ça fait partie des territoires. Cela dit, la question anti-spéculative, elle fait quand même elle prend d'autres biais quoi. Moi par exemple, là je suis dans un habitat, c'est pas une coopérative d'habitat, c'est une SCI, société civile immobilière, qui est couplée avec une association. Je ne vais pas vous faire le schéma des statuts, parce que ça, c'est tout un truc en soi. Mais voilà, en tout cas, l'ambition, elle est justement anti-spéculative aussi. Il y a d'autres moyens aussi, quoi. Et pour répondre à la deuxième question, j'ai fini avec ça ou... La deuxième question à propos de la gouvernance, ben, dans le principe même de l'habitat participatif, il y a des formes de gouvernance démocratique. Maintenant, est-ce que ça se fait ou est-ce que ça se fait pas? Ça se fait très différemment d'un lieu à l'autre. Est-ce que ce sont les mêmes règles? Non. Là aussi, il y a des choses territorialisées. Par exemple, la sociocratie, quelque chose que je crois parlera à beaucoup de monde dans cette salle, j'imagine. Je me trompe? Non? Bon, peut-être pas alors. Je me trompe alors. Parce que moi, à chaque fois que j'en ai entendu parler, j'avais l'impression que c'était des gens plutôt du sud de la France ou alors de Belgique. Des choses différentes. Ou alors du Québec. Et nous, chez nous, dans l'Ouest, on parle assez peu de la sociocratie. Sociocratie, je ne vais pas faire un truc là-dessus, mais c'est des règles, enfin, c'est des techniques plutôt de discussion et de démocratie, de délibération très poussées, avec des rôles, oui, les oasis sont très, très portés sur ce genre de techniques, que j'ai assez peu vu, moi, pour ce que j'ai vu dans l'Ouest. Je ne sais pas comment répondre plus que ça. En tout cas,
Rapport peut-être à la finalité, est-ce qu'il y a des choses récurrentes dans le fonctionnement en fait, de la gouvernance des communs, enfin, des communs dont on a parlé là.
ouais, bah les choses récurrentes. Qu'est-ce que je pourrais dire à ça? Il y a plus de réunions déjà. Ça, c'est pas un détail. Il y a des réunions beaucoup plus fréquentes que dans l'habitat ordinaire. Ça, déjà, c'est une première chose. C'est une sorte d'évidence, mais n'empêche que c'est pas rien de le dire que souvent, on nous pose la question, mais comment vous, qu'est-ce que vous, pourquoi vous vous réunissez encore? Mais qu'est-ce que vous avez à vous dire? Enfin, c'est quoi le délire? Une réunion tous les mois? Une réunion tout, enfin, ça dépend. Il y en a qui se réunissent tous les mois ou tous les semaines ou quoi. Mais comment ça se fait que vous avez encore des choses à vous dire? Donc, du coup, c'est pas rien en fait de dire ça. Ce qui est assez marrant, c'est que ceux qui se réunissent le plus, eh ben, en fait, ils arrivent jamais à l'heure du jour, au bout de l'heure du jour, à chaque réunion. On a un petit peu une sorte d'impression que plus tu fais de réunions, plus il y a de choses à se dire. Et je crois que ce n'est pas une impression. Et du coup, moi, c'est une formule que j'aime bien dire. C'est il ne faut pas attendre d'avoir des choses à se dire pour se réunir. C'est parce qu'on se réunit qu'on a des choses à se dire. Parce que, en fait, c'est là qu'arrivent des choses. Imaginez un petit peu dans une copropriété classique. Quelqu'un qui veut dire, tiens, moi, j'ai une idée, j'aimerais bien qu'on lance tel projet, je ne sais pas. Par exemple, on en parlait tout à l'heure, les charges, répartition des charges, ça serait bien qu'on répartisse d'une manière un petit peu plus équitable que ce qu'on fait habituellement, que c'est marqué dans le règlement. Le règlement, il est un petit peu copié-collé. Bon, alors, comment on fait ça pour légitimer ça, pour que tout le monde en discute? Alors, il faudrait faire toc-toc-toc, qu'est-ce que tu en penses de ça? Et donc, du coup, tout de suite, il faudrait justifier le fait que ça mérite d'être discuté. Bah, rien que ça, c'est énorme, en fait. C'est très coûteux, en fait. Et le fait qu'il y ait des réunions très régulières, eh ben, on peut se permettre d'apporter quelque chose de nouveau à l'ordre du jour en disant « Bon, voilà, je pose ça comme ordre du jour. » Donc, ce n'est pas rien en fait, de dire qu'il y a plus de réunions. Donc, s'il y a bien une tendance, un truc déjà à dire, ça serait ça. Après, je pourrais parler aussi des temps météo, mais ça, c'est pas tout le temps vrai, mais quand même, souvent, ça me paraît assez représentatif de quelque chose, ces temps météo, où tout le monde ne fait pas. Hein. Temps météo, c'est chacun son tour, parle, et pour dire comment il se sent par rapport au projet, mais souvent ça dépasse, en tout cas je peux vous dire que chez moi ça dépasse largement, où on dit comment ça va dans ma vie. Et donc du coup chacun son tour parle, et du coup, mais ça c'est le truc qui est impensable dans la plupart des habitats, enfin dans une copropriété habituelle, quoi. C'est allez, on va à l'essentiel, on va délibérer, et puis on va pas perdre notre temps, quoi. Bah, mine de rien, on partage quelque chose, en fait. On partage de l'habitat, on partage de la vie, on partage... C'est ça qui fait qu'on est plus que des voisins. Et ben, du coup, ça, c'est un type d'outil. Ça, c'est pas un outil très, très compliqué. Hein. Enfin, je veux dire, c'est pas un outil... Il n'y a pas besoin d'avoir Bac plus 12 pour le faire, quoi. Cela dit, tout le monde n'est pas prêt pour le faire, quand même. Donc, voilà, ça, c'est... Il y a ce type d'outil. Après, quoi, il y a... Ben, je dirais que il y a souvent le terme « l'esprit du projet ». C'est marrant parce qu'il y a plein de projets différents. Il y a toujours cette notion-là d'esprit du projet. Ou alors la charte, on appelle ça la charte ou l'esprit du projet. Et alors des fois, tout le monde on se rend compte que tout le monde ne partage pas le même esprit. N'empêche qu'on se revendique quand même de l'esprit du projet, quoi. Comme la charte, souvent, il y a des chartes, il y a des groupes qui n'ont pas de charte, il y a des groupes qui ont des chartes. Et même les groupes qui ont des chartes, ils parlent de la charte. Et souvent, les gens, ils ne savent pas tellement ce qu'il y a dans la charte, en vérité. Et des fois, j'ai même vu des gens qui disaient « Mais si vous n'avez pas de charte, vous êtes mort, il faut absolument avoir une charte. » Et nous, on a une charte. Et en fait, après, je leur demande « Mais allez-vous votre charte ?»« Ah, je ne sais pas. » Mais je pense que c'est parce que ça a quelque chose de symbolique, la charte, plus que vraiment réglementaire. Ça ne régule rien du tout, une charte, en vérité, ça, je ne crois pas du tout. Mais ça a un rôle symbolique, ça a une forme de récit. Et ça répond un peu à ta question, c'est-à-dire que ça, c'est quand même quelque chose qui est tout le temps présent dans les habitats participatifs, qui est qu'il y a des sortes d'attentes. Il y a toujours des attentes, et parmi ces attentes, il y a cette attente-là de démocratie, d'horizontalité, qui sera mis en débat parce qu'il y en a qui, ça les fait chier, ça les embête. Ils préfèrent être plus de spontanéisme. Je n'ai pas trop répondu à cette question-là tout à l'heure. Toujours cette tension-là de plus de formalisme, notamment, typiquement, la formalisme, ça sera se réunir, quoi. Il faut se réunir, se délibérer collectivement pour prendre n'importe quelle décision. Et ceux qui sont sur cette ligne-là, ils disent, bah oui, c'est ça la démocratie, c'est discuter ensemble, quoi, sinon ça n'a pas d'intérêt. Et ceux qui disent, ouais, mais on va pas non plus, si je veux déposer juste mon pot de fleurs d'un mètre, je vais pas faire une réunion pour ça. Et donc ceux-là, ils parlent plutôt de spontanéisme. Et là, il y a toujours cette tension-là entre ceux qui veulent plus de formalisme et ceux qui veulent plus de spontanéité. Mais en tout cas, même s'il y a tout le temps cette tension-là, dans les habitats participatifs, il y a globalement plus de mise en discussion, de mise en délibération, de mise en horizontalité, de formalisme, plus qu'ailleurs. Enfin, plus que dans l'habitat ordinaire, quoi.
Ouais, mais une question pour concernant les personnes, en fait. Donc, une question aux sociologues. Est-ce que tu as pu cerner un peu le profil sociologique des personnes? Est-ce qu'on retrouve des choses? Est-ce que c'est très diversifié? Et puis, même chose, mais au niveau politique, est-ce qu'il y a des orientations politiques particulières? Je connais assez bien la Bretagne, et il y a la question de la gauche chrétienne, je pense, qui est importante là-bas. Donc, est-ce qu'on peut cerner ça? Est-ce que tu l'as cerné ou pas?
De population, je me suis beaucoup basé sur un livre de Sandrine Vermersch et de Marie-Hélène Becquet qui avait travaillé sur justement l'habitat participatif à Angers et elles ont bien montré que cet habitat-là, habitat participatif en particulier, était représentatif d'une certaine classe moyenne. D'une classe moyenne et de pas toutes les classes moyennes, en fait. Enfin, du coup, elles en font l'histoire de cette classe moyenne qu'elle appelle, zut, le terme va pas me revenir, une classe moyenne qui est arrivée avec des nouveaux... Enfin, en fait, c'est non seulement classe moyenne, mais c'est plus précis que ça. C'est aussi des gens qui travaillent dans le milieu de la culture, dans le milieu de l'enseignement, dans le milieu du travail social et du médical. Et du coup, c'est pas seulement classe sociale, c'est aussi un milieu professionnel, c'est aussi un milieu de loisirs, un milieu de rapport à la culture, un milieu de tout ce qu'on appelle la politique du quotidien, qui fait que cette politique-là qui est apparue dans les années 70-80, le fameux slogan mitterrandiste qui disait « changer la vie », qui disait que la politique ne se fait pas simplement sur le terrain économique du travail, mais aussi sur l'écologie, le féminisme, le rapport aux loisirs, toutes ces choses-là. Bah, et l'habitat, du coup, on est en plein dedans. Enfin, c'est vraiment, effectivement, typiquement ça. Donc voilà. Ça, c'est... J'ai repris cette notion-là, que je trouve tout à fait juste, que j'ai vraiment vérifiée, et j'appelle ça, moi, le profil type de l'habitat participatif. C'est-à-dire que c'est le noyau de l'habitat participatif. Cela dit, ça a changé depuis, parce que avec ces mouvements-là ascendants qui sont allés voir solliciter des institutions qui du coup ont fait des mouvements descendants, un des buts du mouvement descendant, c'était justement de diversifier la population, de faire qu'elle soit plus large et qu'elle soit beaucoup plus diverse, et notamment de faire en sorte que ce soit pas que cette classe-là, enfin cette population-là. Et du coup, ça, ils ont réussi leur coup, c'est-à-dire que c'est beaucoup plus divers maintenant. Il y a beaucoup plus de classes sociales, notamment il y a du logement social, ne serait-ce que ça. Il n'y a pas beaucoup de riches, de très riches, je crois pas. Il y a aussi plus de familles monoparentales, il y a aussi plus de... Enfin voilà, ça s'est diversifié à plein d'égards. Donc c'est moins vrai aujourd'hui, mais ça reste quand même, ce profil-là reste quand même le profil type. Et on va le voir d'autant plus, on peut différencier les choses avec la typologie dont j'ai parlé tout à l'heure. Là. En tout cas, dans mon corpus, le profil type, c'est les deux tiers. Ce profil type se retrouve pour les deux tiers des habitants, des habitats horizontaux. Donc moi, dans mon habitat, c'est une sorte de caricature, on est tous là-dedans. C'est la moitié des habitats ascendants. Et c'est un tiers des habitats descendants. Un tiers, on peut dire que c'est plus vraiment, c'est plus vraiment très très... donc voilà. Et la deuxième question, je ne me rappelle même plus qu'est-ce que c'était. Ah oui, le côté gauche chrétienne, oui, bon bah oui, ça fait partie aussi de la... Du territoire breton aussi, effectivement, il y a une sorte de gauche chrétienne qui est ce même mouvement que ce que j'ai appelé tout à l'heure développement durable et économie sociale et solidaire. C'est pareil, c'est cette même gauche chrétienne que maintenant vous dites ça à la plupart des Bretons aujourd'hui, s'ils ne reconnaîtront pas. Hein, ça fait un peu bizarre de dire non, mais ça n'a rien de gauche chrétienne hein, ce que je fais. Mais n'empêche qu'effectivement, anthropologiquement, c'est ce terroir-là. Ouais. On peut dire aussi politiquement, ce qu'on entend souvent par politique, c'est les partis. Je ne veux pas dire que politique, ça veut dire forcément parti, hein, mais effectivement, il y a un côté... on voit souvent que c'est de gauche, écologique, rouge, rose, vert, non votant mais de gauche, beaucoup plus que de droite, ça c'est clair. Tous ces mouvements-là plutôt associatifs. Voilà, tous ces mouvements féministes se retrouvent, tous les mouvements... Notre-Dame-des-Landes, par exemple, j'ai vu ce mouvement-là dans pratiquement tous les habitats que je suis allé voir. Ça se retrouve, quoi. Il y a une sorte de coloration politique, pareil, typique, surtout, encore une fois, qui est consubstantielle presque de cette population-là, quoi. Donc, du coup, c'est moins vrai pour les habitats descendants. Avec aussi, ce que ça veut dire, c'est que ces habitats descendants sont... Une phrase que j'aime bien citer aussi, c'est quelqu'un d'un habitat descendant qui dit « Nous, notre spécificité, c'est qu'on est normaux. » Mais c'est génial, en fait, cette phrase-là, parce que quand il dit ça, c'est « Nous, notre spécificité dans le milieu de l'habitat participatif, c'est qu'on n'est pas particulièrement militant, on n'est pas particulièrement associatif, on n'est pas particulièrement bac plus 12 du militantisme. » Ben, mais de fait, ça se retrouve aussi dans le fait que, ben, forcément, quand je parlais de support tout à l'heure pour monter ces projets-là, ben là, ils ont moins de support, enfin... En fait, c'est logique. On veut diversifier. Donc, du coup, on veut que ça soit plus accessible. Donc, du coup, on fait en sorte que ça soit plus accessible. Donc, on a moins d'exigences. Bah, donc, du coup, forcément, au final, c'est plus dilué. On a diversifié en diluant. Je ne dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Hein. C'est un petit peu comme ceux qui vont acheter des produits bio en faisant du vélo et en discutant pendant longtemps avec le fermier, parce qu'on n'est pas que dans le consumériste ou quoi. Mais OK, super, c'est très, très cohérent. Mais ça concerne une minorité de personnes. Si on veut que ça soit beaucoup plus diversifié, qu'est-ce qu'on fait ? Ben, on vend des produits bio en supermarché. ça a beaucoup moins de, ça va beaucoup moins loin, mais ça touche beaucoup plus de monde. C'est plus dilué. Je dis pas que c'est bien ou que c'est mal. Hein. Moi, je trouve que les deux existent. Mais il y a un petit peu la même logique pour l'habitat participatif, finalement, des choses très très exigeantes, très fatigantes, qui demandent des compétences plus, c'est vrai. Hein. Voilà, ça sont pour et ça sont contre. Le fait de faire des choses presque clés en main. À Rennes, ils ont inventé le terme de non pas d'habitat participatif, mais habitat concertatif. Je ne sais pas si vous voyez à quoi ça fait référence, mais c'est dans la démocratie participative, on parle de... Habitat, il y a quatre niveaux de participation. Il y a l'information, la consultation, la concertation et on ne sait jamais trop comment nommer le dernier, la co-gestion ou la co-décision. Voilà, il y a plusieurs termes. Mais là, s'ils disent habitat concertatif, c'est pour dire on va faire quelque chose qui est... Allez, on va arrêter avec ceux qui sont à donf, là, les bac plus 12, machin, on va faire un truc beaucoup plus démocratique. On dit toujours démocratique dans ce cas-là. Mais ce n'est pas une critique que je veux dire par là. Et du coup, concertatif, c'est pour dire plus soft, quoi. Plus, comme des produits bio en supermarché, quoi. C'est pas une critique ce que je dis, hein. Vraiment pas. Hein.
Pour continuer à poser la question dans le même sens, d'abord, petite remarque peut-être, est-ce que c'est le côté gauche chrétien qui fait que l'apanage du travail comme notion, comme le mythe du vieil Adam, soit inscrite dans cette idée, parce que c'est quelque chose qui me questionne, par exemple. Effectivement, l'endroit où on habite, c'est pas forcément l'endroit où on travaille, et de ramener peut-être la notion du mot travail à l'endroit où on habite, où effectivement, c'est le travailler à la convivialité, par exemple, ça met pas beaucoup de possibilités de légèreté, peut-être. Bon, voilà, non, mais ça, c'était une petite remarque. Non, la question, c'était savoir, est-ce que tu avais apprécié des différences notable dans les habitats urbains comme le nôtre ou pardon je suis habitant ici et les habitats qui sont à la campagne.
C'était une remarque, moi je le prends comme je réponds à la remarque sur le travail. Je tiens vraiment beaucoup à cette notion de travail. Alors je sais pas si c'est un rapport avec le côté chrétien, ça j'en sais rien, mais en tout cas ça. Il y a peu de légèreté, oui, ouais, tout à fait. J'ai vraiment envie, je maintiens ça en disant que c'est pas léger en fait, que c'est éprouvant dans tous les sens du terme, ça se fait pas tout seul, que ça demande des efforts, que ça demande des compétences. On vient encore avec ces compétences là, que c'est pas tout à fait par hasard si c'est un si grand enjeu de savoir qui est-ce qui quand quelqu'un part d'un logement, qui est-ce qui va le remplacer, est-ce qu'on les coopte ou pas? Comment on les coopte? C'est un petit peu une logique de coopter en fait un associé. Des fois, il y en a qui vont dans une logique même de l'aide de motivation, d'entretien. Enfin, ça pas jusque là, mais en fait, finalement, il y a une logique comme ça de coopter un collègue de travail. Donc oui, c'est du travail. Enfin, je me maintiens là-dessus. En fait, il y en a plusieurs avec qui il y a plusieurs personnes. Ça m'a fait plaisir, je dois bien dire. Des gens qui disent, moi, je trouvais ça vraiment bizarre cette notion de travail là. Franchement, moi, je trouve ça super bien et tout. Et toi, tu parles de travail quand même. Et après, qui se dit, j'ai réfléchi et oui, je pense que tu as raison. En fait, il y a quelque chose de...
Philosophiquement, vivre est un travail.
Alors, je ne sais pas si vivre est un travail, je ne dirais pas ça. Mais en tout cas, ça renvoie à la notion de qu'est-ce que c'est que le travail. Et Marx qui dit que le travail, on s'épanouit par le travail. En tout cas, sauf qu'il y a des fois des conditions sociales qui font que le travail est aliénant plus qu'épanouissant. Mais en tout cas, on peut s'épanouir par le travail. Moi, je pense que travailler l'habitat, l'habiter, eh ben, ça, c'est quelque chose à travailler, quoi. C'est quelque chose qui a du sens. Donc, travailler au sens de l'habiter, de comment on habite ensemble, comment on est responsable et comment on prend soin de notre milieu habitant auquel on n'a pas la maîtrise, mais avec laquelle on a la prise et que du coup, on est co-responsable les uns des autres. Ben ouais, travaillons là-dessus. Ça me paraît... alors, c'est peut-être...
Co-construisons.
Alors, c'est peut-être très chrétien, tout ça. En tout cas, moi, ça me paraît intéressant, quoi. Et je me rappelle même plus quelle était l'autre question. La différence rurale et urbaine. J'aurais pas 15 000 trucs à dire là-dessus, si ce n'est que, bon, déjà en termes de politique publique, c'est pas la même chose. Enfin, c'est-à-dire du point de vue des politiques publiques, ce sont pas les mêmes problématiques qui font que les institutions vont être réceptives ou pas réceptives. Typiquement, en milieu rural, c'est souvent pour améliorer l'attractivité des territoires, ce qui est pour les villes, ça peut être aussi, mais dans le sens d'une avoir le projet qui est visible, qui est médiatique, etc. C'est pas attirer une nouvelle population, mais c'est plutôt avoir quelque chose qui soit une bonne image, quoi, travailler l'image. Ça peut être aussi pour attirer une population particulière. Bon, voilà, ça c'est du point de vue des institutions. Quelque chose qui est aussi notable, c'est que très souvent dans les habitats ruraux, il y a non seulement l'habitat, mais il y a en plus du travail. Enfin, du travail dans le sens une activité professionnelle. C'est-à-dire souvent des, je sais pas, de la boulange ou de la paysannerie ou des choses comme ça. Et les gens qui à la fois travaillent, enfin, dans le sens professionnel du terme, et habitent. Et chose qu'en ville, j'ai rarement vu ça. Dans l'absolu, ça pourrait, hein. Mais de fait, j'ai rarement observé ça en ville, alors que c'est très fréquent même en milieu rural. Voilà. Après, les logiques de foncier ne sont pas les mêmes. Ouais, les prix ne sont pas les mêmes.
Oui, bonsoir, Richard Aubert, habitant de Clément Cité. Vous avez fait allusion à la fatigue, au travail, et vous avez même fait allusion aux exigences d'exogamie que pourraient réclamer ces enfants qui sont prisonniers de nos murs. Alors moi, je m'interrogeais, est-ce qu'il n'y a que les enfants qui sont prisonniers de ces murs? Est-ce que les parents ou les grands-parents ne peuvent pas avoir envie d'avoir des replis extérieurs à ces résidences qui les clôturent? Est-ce que ces fatigues-là peuvent être éliminées ou en tout cas enlevées, réduites, hein? Est-ce qu'il y a des solutions, des stratégies pour échapper à ces fatigues et à ce travail? Est-ce que ces solutions sont vécues comme nécessaires par les habitats des habitats participatifs?
Alors il y a un slogan qui revient très souvent pour l'habitat participatif, c'est vivre ensemble, chacun chez soi. Et c'est très intéressant comme slogan parce que ça veut dire à la fois un idéal, on vit ensemble et en même temps on est chacun chez soi. L'idéal de l'habitat participatif, pour à peu près tout le monde de l'habitat participatif, c'est le juste milieu entre vivre ensemble et chacun chez soi. Sachant que, en fait, voilà, c'est un idéal, mais que c'est toujours, j'allais dire au travail, c'est toujours mis à l'épreuve, parce qu'en fait, il n'y a pas de juste milieu, justement. Il y a toujours une forme de même tension entre ceux qui voudraient qu'on soit plus vivre ensemble et ceux qui soient qu'on soit plus chacun chez soi. C'est toujours discuté, puis c'est évolutif, ça dépend des moments, ça dépend des gens, ça dépend aussi dans le projet lui-même. On peut basculer plus vers l'un ou plus vers l'autre. Donc finalement, c'est pas simplement l'idéal, c'est aussi même la tension même de l'habitat participatif, quoi. Ce truc-là entre vivre ensemble de façon, ce qu'on parlait tout à l'heure, la cellule domestique du groupe habitant, et puis la cellule domestique du ménage, quoi, ce qu'on pourrait appeler chacun chez soi. Donc il y a toujours ces deux lignes-là. Donc déjà, quand on dit ça, ça répond déjà d'une certaine façon à votre question, qui est qu'il n'y a pas que du vivre ensemble. C'est pas, allez pas dire aux habitats participatifs que c'est une communauté. Ça, c'est un terme un peu exclu, très rejeté dans l'univers de l'habitat participatif. Bon, sauf certains territoires comme Oasis. Mais voilà, en général, on n'aime pas trop ce terme-là, communauté, parce que justement, on tient beaucoup à ce côté-là que chaque ménage garde son logement par ménage, quoi. Ce qui signifie qu'on a des moyens de se réfugier chez soi. Donc voilà, il y a cette tension-là. Alors, ça soulève deux tensions que j'ai vues. Il y en a une qui est l'obligation à ce que le projet se maintienne en projet tout le temps. Donc ça, c'est maintenir le travail, maintenir la petite machine, faire des petits projets qui maintiennent, qui seront des sortes d'alibi pour faire en sorte que le gros projet se maintienne. Et puis un autre truc qui est que le droit au repos chez soi, parce que faut pas oublier qu'on est chez soi, quoi. Enfin, c'est pas une association. Je suis pas militant d'une association pour changer le monde à côté. J'ai le droit à me reposer chez moi et ça fait vraiment partie de l'habitat. Et donc voilà, ça c'est cette première tension, le droit. Et la deuxième tension, je me suis perdu, je ne sais plus. Je me suis perdu. Mais en tout cas, il y a. Ah oui, l'autre tension, c'est. L'idéal d'un habitat participatif, c'est que tout le monde participe. Quand je dis participe, c'est au projet. Mais évidemment, il y en a toujours qui participent plus que d'autres ou moins que d'autres. Et se pose la question de est-ce que c'est embêtant, est-ce que c'est pas embêtant? Alors je vous dis tout de suite, j'ai aucune solution à ça, hein, à savoir comment réguler le problème. Mais en tout cas, c'est... ça y est, je fatigue là, je crois.
Tu peux raccourcir les questions, les réponses.
Ouais. Zut, je me suis complètement perdu. Excusez-moi, je me suis perdu. En tout cas, si personne ne participe, ça pose vraiment problème. Ah oui, il y en a aussi qui participent plus du tout au projet collectif. Et pour autant, on imagine souvent que si quelqu'un ne participerait plus au projet collectif, bah du coup, il déménage. Pas du tout. En fait, ce qu'on observe, et ça s'observe souvent, en fait, c'est que ceux qui ne veulent pas participer au projet, eh ben, ils habitent quand même chez eux. Parce qu'ils habitent quand même chez eux, je veux dire, dans leur logement. Ils n'habitent pas le projet, mais ils habitent chez eux. Bon, il y en a qui se satisfont de ça en disant oh, c'est pas de problème, on est suffisamment nombreux pour que ça ne pose pas de problème. Il y en a qui disent bah non, c'est pas possible. Il y en a pour qui ça se passe en tension, enfin en conflit. Là, il y a plusieurs configurations différentes. Mais en tout cas, ça fait partie. C'est quelque chose qui est toujours en jeu d'une manière ou d'une autre, quoi. De façon très forte ou pas forte. On ne peut pas obliger à la participation. On ne peut que inciter. Alors ça, il y aura des techniques aussi, hein, faire en sorte que c'est plutôt cool quoi, de faire des réunions sympathiques. C'est aussi important, quand je disais tout à l'heure qu'il faut se réunir et que c'est important même si on n'a rien à se dire, bah, ne serait-ce que manger ensemble, en fait, prendre des apéros, etc. Ça compte finalement en vrai autant que le reste. Ah oui, alors ça, oui, le coup du fumier, là, c'est... Il y a des anecdotes assez croustillantes où il y en a qui estiment... En fait, il y en a qui estiment que ceux qui ne participent pas prennent la place de ceux qui participeraient. Donc, du coup... Alors, je ne sais pas si ils ont raison ou pas, mais en tout cas, ça s'entend. Enfin, encore une fois, est-ce qu'on habite un logement ou est-ce qu'on habite un projet? Est-ce qu'on participe à un projet? Il y a ces deux logiques-là concomitantes, quoi.
Question. Alors moi, je suis habitante aussi en habitat participatif. Je pensais savoir à peu près ce que c'était l'habitat participatif. En tout cas, quand on me posait la question, bon, et oui, on a des communs, tout le monde demande alors. Mais il y avait aussi le fait qu'on avait participé au projet, on avait, entre guillemets, formé notre groupe, conçu nos appartements, conçu nos espaces collectifs et tout ça. Et là, maintenant, j'avoue que je suis un peu perdue. Je me dis, c'est quoi finalement l'habitat participatif? Vous avez dit que ce n'était pas de l'autogestion non plus. Il y a ce descendant qui arrive, il y a ce transversal, ce rebond. Bon. Et ça se rapproche peut-être aussi, j'ai compris qu'il y avait quand même une notion de commun. Peut-être que c'est la conception commune ou pas, mais en tout cas, il y a aussi cette gestion commune. Et est-ce que systématiquement, les communs sont gérés par le collectif? Enfin, nous, on parle de collectif, hein, chez nous, en gros, par les habitants. Est-ce que, par exemple, il n'y a pas de syndic? Est-ce que c'est systématiquement le fait de dire bah, on va faire nous-mêmes? Et ça pose la question justement de bah, celui qui ne participe pas, comment on fait pour gérer le collectif si on ne paye pas un syndic, etc. Enfin, je me suis demandé comment c'était... Je suis en train de m'emmêler les pinceaux dans ma tête.
Quand je parlais d'une typologie, c'était justement pour distinguer plusieurs types d'habitats participatifs qui sont tous des habitats participatifs. C'était pour typifier, quoi. Donc... Il y a des habitats participatifs qu'on pourrait dire autogestionnaires, hein, pour le coup. Enfin, que du coup, de toute façon, quasiment personne s'autonome habitat participatif. Enfin, je ne sais pas si c'est toujours vrai, ça, ce que je dis. Parce qu'en tout cas, du temps de mon enquête, il n'y a aucun des groupes de mon enquête qui s'autonome habitat participatif. C'est un vocable institutionnel, en fait. Enfin, c'est un vocable qui a été pris par les associations qui ont fait du lobby auprès des institutions et qui avaient besoin de se dire porte-parole des habitants. Et pour ça, il faut avoir un nom commun et ils sont tombés d'accord sur habitat participatif. Voilà, bon, j'arrête là-dessus, mais de fait, les habitants eux-mêmes ne s'autonoment pas habitat participatif, ou du moins se n'autonome. Vous m'avez compris. Ouais. Cela dit, ils comprennent le terme. Du coup, ils acceptent le fait qu'on les appelle habitat participatif. Quoi. Moi, si je dois donner une définition, j'en ai donné une tout à l'heure, mais j'en donne une autre aussi à la fin du livre. Moi, je me serais bien contenté de... Enfin, j'aurais bien dit habitat groupé participatif. Sachant que groupé, avant, on parlait d'habitat groupé autogéré. Vous voyez, encore autogestion, participation, bon. Autre temps, autre mœurs. Et donc, pour aller rapidement, habitat... Alors déjà, habitat, ce que j'entends par là, c'est à l'échelle de logement. Ce que je veux dire, c'est pas un territoire, c'est pas Notre-Dame-des-Landes, c'est pas... Ça pourrait aussi, hein, mais quand on parle d'habitat participatif, c'est un ensemble d'habitats. Alors de ceux que j'ai vus, moi, le plus petit que j'ai vu, c'est 4 habitats, 4 logements, quoi, je veux dire 4 foyers. Bah ici, vous êtes 21, c'est ça ? 21. C'est le plus grand que j'ai vu, il me semble qu'à Angers, ils sont comme ça, une vingtaine aussi. Ce qui est grand pour la France, il y a des choses beaucoup plus grandes dans des pays voisins. En France, c'est rarement plus grand que ça. Ah bah ça y est, je me suis perdu encore. Ah oui, ah oui, donc définition, habitat. Groupé, ça veut dire deux choses. premièrement, ça veut dire qu'on groupe, d'abord, c'est un groupe d'habitants. Tu parles de collectif. Souvent, on dit collectif ou groupe. Et donc, du coup, voilà, c'est un groupe d'habitants. L'habitat participatif, c'est avant tout un groupe. Évidemment, c'est pas du tout pareil si c'est un groupe autogéré, enfin, horizontal, quoi. Ou alors ascendant, où forcément, là, il y a d'abord un groupe avant qu'il y ait le projet, que c'est eux qui montent le projet. Alors que si c'est un groupe descendant, les gens n'ont pas monté le projet, ils participent à un projet. Donc, forcément, cette notion-là de groupe, elle marche moins bien. Et ça, c'est le premier truc de groupe. Et le deuxième truc de groupe, c'est que l'habitat lui-même, il est groupé. Il y a toujours des espaces communs en plus. Enfin, beaucoup plus que dans l'habitat ordinaire. Ici, il y en a, on est dans une salle commune, il y a des buanderies communes, il y a le jardin commun. Donc, il y a toujours voilà, l'habitat lui-même. Et puis, ce n'est pas que physique, c'est aussi la gestion est plus commune. Quoi. Enfin, groupée. Et puis, participatif, ça veut dire deux choses. La première, c'est dans ce sens-là de démocratie participative qui fait que c'est tout le temps... En fait, participatif veut dire répartition des parts. On répartit les parts. On détermine que les usagers, ou alors les profanes, ou alors les habitants, ou alors les citoyens, comme vous voulez, mais en tout cas, ce n'est pas des professionnels, ont plus de parts que ce qui se fait habituellement. Donc, par exemple, vous avez monté le projet, je ne sais pas si vous avez, j'imagine que ça va être, je ne sais pas quelle part vous avez pris par rapport au travail qui est habituellement fait par le promoteur. Il y en a qui font carrément le travail d'autopromotion, il y en a qui font un travail de co-gestion avec l'autopromotion, il y en a qui sont juste en information avec l'autopromotion, on retourne avec ces quatre niveaux-là, information, consultation, concertation ou co-gestion. Et ben, ça peut être ces quatre niveaux avec le promoteur, ça peut être pareil avec l'architecte, il y en a qui délèguent complètement l'architecte, il y en a qui font la place de bon. Ça peut être pareil avec les artisans, ça peut être pareil avec des élus politiques. Donc, pour plein de métiers comme ça, les habitants prennent plus de parts. Et le deuxième sens de participatif, c'est qu'on participe à un projet. C'est pas simplement chacun a un logement et puis on se dit bonjour entre voisins et voir plus si affinité. C'est il y a une forme d'attente de participer au projet. Et participer au projet, ça veut dire participer aux réunions, participer à tout ce truc-là écologique, parce que ça sert à rien de faire des habitats écologiques avec des panneaux solaires ou quoi, si finalement on n'a pas de compost, on participe pas au compost, on prend sa voiture tout le temps. Il y a toujours cette attente-là comme quoi on doit avoir aussi des pratiques, tout en sachant, mais jusqu'où on va là-dedans, je sais pas, mais en tout cas, c'est remis en discussion qu'il y a cette attente-là de participer. C'est aussi la convivialité, hein, je reviens encore là-dessus. Il est attendu qu'on se dise bonjour avec ses voisins et qu'on ne se contente pas de dire juste bonjour, bonsoir, ce qui peut être acceptable dans un habitat ordinaire et qui est jugé comme trop distant dans un habitat participatif. Donc voilà, on participe à ça. Et ça se retrouve pour tout ce qui est habitat participatif. Et je n'ai pas envie, moi, de donner un label. Ça n'a pas de sens. Moi, en fait, je m'en fiche qu'on s'autonome habitat participatif. C'est juste cette démarche-là de travailler l'habitat à travers toutes ces choses-là que je pense intéressantes.
Bonsoir. Bonsoir. Je trouve absolument idéal l'habitat participatif, puisque, en fait, c'est... Pardon ? Je dis, je trouve que c'est à peu près un univers idéal au départ, puisqu'il s'agit de vivre en collectif, de retour en quelque sorte à la nature, mais au naturel, en collectif, en partageant certains modes de vie, etc. Mais nonobstant, je voudrais savoir comment on arrive à gérer le phénomène dont tu as parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la sociocratie. C'est-à-dire que quand on veut retourner à la nature revient au galop aussi. Hein. Donc il y a toujours des personnalités, parce que ça ne manque pas de personnalités. J'ai vu le profil que tu as dit des gens qui sont dans ces habitats participatifs, sont des gens qui ont un certain niveau de Bac plus X. Donc, les gens qui ont des personnalités, ils viennent ici pour exprimer leur personnalité, leur idéal. Et donc, ils veulent s'affirmer. Alors, moi, je veux savoir comment, dans tout ce panier un peu de crabe, il n'y ait pas une personne qui prenne genre dictateur, la plus grande gueule, qui va finir par gérer et faire de l'autogestion lui-même. Parce que comment vous arrivez à éviter ce phénomène-là ? Ce qu'on voit dans la société, vous voyez, moi, notre président, là, bon, ben, c'est un type bon, complètement, ça y est, il est éthéré, lui, ça y est, il n'y a que lui qui existe, quoi. Hein. Donc là, si on refait ce phénomène social en miniature, comment on gère le dictateur qui va...
C'est ça, les dictateurs sont compostés.
Merci à vous. Merci beaucoup.
Alors, comment répondre à ça? Bah, je sais pas, il y a des personnalités, ça c'est sûr. Il y a des personnalités qui s'affirment ou qui s'affirment pas. En général, c'est pas trop des personnalités de dictateurs. Enfin, alors dans les copros, beaucoup plus, je pense. Parce que je dis ça, parce que je peux me permettre de le dire, parce que j'ai travaillé aussi un peu sur les copros. Et j'ai pas un dictateur, c'est pas le bon terme non plus, mais disons que les en copropriété ordinaire, c'est beaucoup plus fréquent de se reporter au règlement, et le règlement c'est le règlement, et puis. Et si on se réunit, c'est pour faire comprendre aux autres qu'il faut qu'ils respectent le règlement. Ça, c'est un peu la tendance, ce qu'on voit souvent dans les copropriétés, alors que c'est plus difficile à faire passer dans un habitat participatif, dans l'esprit en tout cas, parce que justement, le règlement il est toujours discutable. Alors du coup, on le discute beaucoup plus. Donc du coup, c'est pas trop un bon espace pour un dictateur. Non, justement, une grande gueule sera beaucoup plus à l'aise dans une copropriété ordinaire. Merci à vous.